les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Elle a su tenir tête à l'assassin, elle s'est défendue avec un beau courage. Mais ce qui est étrange, c'est la balle dans le plafond. Elle, c'est Mathilde Stangerson, et c'est Joseph Rouletabille qui parle d'elle et de la balle dans le plafond de la chambre jaune. Ça y est, Rouletabille est au Glandier, là où a eu lieu le crime. Crime sans cadavre, puisque Mathilde Stangerson a réchappé aux assauts de l'assassin. Mais, le mystère de la chambre jaune n'a pas fini de s'épaissir. Voici les épisodes 3 et 4 de ce feuilleton, diffusé pour la première fois sur France Culture, les 3 et 4 août 1983.
Le mystère de la chambre jaune, de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne.
Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat.
Tout a l'air calme.
Si l'état de Mathilde Stangerson le permet, à mon avis, le juge de Marquet a sans doute déjà commencé les interrogatoires.
Si vite ?
Il est magistrat et des plus sérieux, mais le soir, n'oubliez pas, c'est un joyeux noctambule, le compositeur aimé du tout Paris. Ils ne peuvent pas prolonger indéfiniment ses séjours hors de la capitale. Sinclair, regardez.
Oui, où ça ?
Là, devant la grille du parc.
Ah ! On dirait un homme couché par terre.
Approchons-nous le plus silencieusement possible. Il est tellement occupé qu'il ne nous entend même pas.
Qu'est-ce qu'il peut bien examiner? Tantôt il regarde le mur, tantôt ses pieds, maintenant il regarde le creux de sa main. Mais qu'est-ce que c'est que ce maniaque? Alors bon, tiens. Il s'allonge pour observer la terre.
C'est drôle, ce maniaque a une allure qui me dit quelque chose.
Hein?
Je suis sûr de connaître cet homme. Approchons-nous encore un peu. Frédéric Larsan ! Parbleu ! Ça ne pouvait être que lui !
Frédéric Larsan ? Le grand Larsan ?
Lui-même !
Bah alors, mon cher Joseph, l'affaire est en de bonnes mains.
Venez, faisons le tour du parc, on ne dérange pas Larsan quand il travaille. En tout cas, pas moi. Mais au fait, vous le connaissez ?
Non, pas intimement. Enfin, réputation, quoi. Et comme tout le monde, j'ai toujours eu très envie de le rencontrer.
Alors, vous voyez, c'est magnifique. Vous ne serez pas dérangé pour rien.
Ah, ben ça, j'en suis ravi. Mais il m'avait semblé Je sais pas, j'ai lu récemment que Larsan était en Angleterre, à Londres, pour élucider... Je sais pas trop quelle affaire de titre volé.
Et alors, Londres n'est pas aux antipodes, hein? Quant à Larsan, il faut pas le tirer du lit quand une aventure bien compliquée lui est offerte.
Les lingots d'or de l'hôtel de la Monnaie, c'est lui, hein?
Oui, ben oui. Et lui aussi l'arrestation des perceurs de coffres du crédit municipal.
Ah, je me souviens très bien. Oh, c'est vraiment dans son genre un homme remarquable.
Et donc, en tant que policier marginal, on se l'arrache un peu partout. En Europe, en Amérique, dès qu'il se passe quelque chose, on convoque la police du coin, ça ne donne rien, hop, on appelle Frédéric Larsan. Bon, bien sûr, il faudrait commencer par là, mais enfin, il faut ménager les susceptibilités. Hein. Or, qu'y a-t-il de plus susceptible qu'un policier? Attendez, regardez. Qu'est-ce qu'il peut bien chercher?
Mais il scrute le creux de sa main. Tiens, le voilà maintenant qui court jusqu'à la grille du parc. Et il regarde encore dans le creux de sa main.
Il doit chronométrer un certain trajet. Ça, c'est l'évidence même. Attention, venez, Sinclair, il nous a vus. Courons, sinon il va refermer la grille avant que nous ne soyons entrés.
Monsieur Larsan ?
Oui.
Vous ne m'aviez pas reconnu.
Ah, oh, c'est vrai.
Nous voudrions simplement savoir si monsieur Robert Darzac est au château en ce moment. Ah. Voici d'ailleurs un de ses amis qui m'accompagne. Permettez-moi de vous présenter maître Sinclair du barreau de Paris. Sinclair, le grand Frédéric Larsan.
Non. Monsieur, je suis ravi. Et moi aussi, maître, les amis de Rouletabille sont toujours les bienvenus. Que puis-je faire pour vous?
Vous êtes très aimable. Mon ami souhaitait seulement pouvoir parler quelques instants avec Robert Darzac. Savez-vous s'il est là?
Ah, aucune idée, mon jeune ami. Je ne l'ai pas vu.
Ah, c'est ennuyeux, ça. C'est ennuyeux.
Je suis désolé.
Dites-moi, oui. Monsieur Larsan, un petit renseignement. C'est bien la maison des gardiens qui est là.
Oui, en effet.
Bon, bah alors ces braves gens vont sûrement pouvoir nous renseigner.
Ah, ça m'étonnerait beaucoup, mon cher Rouletabille.
Allons, bon, pourquoi?
Parce qu'ils ont été arrêtés il y a une demi-heure.
Comment? On a arrêté les gardiens, mais... C'est ridicule. Ce sont eux les assassins?
Ah, ce n'est pas à vous que j'apprendrai, mon cher maître, que si l'on ne peut pas arrêter l'assassin, on peut toujours s'offrir le luxe de lui trouver des complices.
Mais c'est quand même pas vous qui les avez fait arrêter.
Ah, Dieu, non, par exemple. Et je ne l'ai pas fait pour une raison bien simple. Je suis à peu près sûr qu'ils ne sont absolument pour rien dans cette triste affaire.
Et ensuite?
Et ensuite, parce que... rien.
Ah, si. Ensuite, cher monsieur Larsan, ensuite, il n'y a pas de complice.
Qu'est-ce que vous dites?
Mais comment savez-vous?
Ah, le cher petit Rouletabille a donc une idée sur l'affaire.
Oh, une idée, c'est beaucoup dire.
Et comble d'ironie, vous n'étiez pas présent, vous n'avez rien vu et vous n'avez jamais mis les pieds dans le château.
Non, mais j'y entrerai.
Oh, présomptueux, la consigne est formelle.
J'y entrerai si vous me faites rencontrer monsieur Darzac.
Mais je ne peux pas. Non, je n'ai pas le droit.
Oh, je vous en prie. Allez, soyez pas insensible. Hein? Laissez pas cette grille fermée, c'est trop affreux. Hein? Et puis nous sommes de si vieux amis, monsieur Larsan. Allons, un bon moment.
Non, Joseph, je ne peux pas.
Laissez-vous attendrir. Souvenez-vous du bel article que j'ai fait sur vous pour l'affaire des lingots d'or.
J'ai une excellente mémoire, mais je vous assure que cela n'a rien à voir.
Un petit mot. À Darzac pour son ami et moi. S'il vous plaît, juste un petit mot.
Mon pauvre ami, vous avez l'air d'avoir sacrément envie d'entrer. Hein?
Ah, c'est très sérieux. Non, je vous en prie, donnez-moi les clés.
Non, Rouletabille, vous me connaissez. Si c'était en mon pouvoir, je vous rendrais bien volontiers ce service. Mais non, la consigne est formelle. D'ailleurs, je vais rendre immédiatement ces clés.
Non, vraiment. Attendez, regardez, on dirait le cabriolet du juge d'instruction.
Comment, il a déjà fini?
Oh, Rouletabille, vous avez une chance inouïe. Vous vouliez parler à Robert Darzac et justement, le voilà.
Hosanna! Bonjour, monsieur Larsan.
Bonjour.
Voudriez-vous m'ouvrir la grille, s'il vous plaît? Il faut absolument que j'aille prendre le train pour Paris.
Tout de suite, voilà.
Ah, Sinclair, montrez-vous, c'est urgent, vite.
Bien. Merci. Allons, cocher, fouette, je suis en retard. Mais, qu'est-ce que... Arrête, cocher.
Oh, là, là, oh, oh.
Je ne me trompe pas, j'avais bien vu. Mon cher Sinclair.
Ah, mon cher Darzac.
Vous êtes au courant, n'est-ce pas? C'est abominable.
Ah oui. Et comment va Mathilde?
Mieux, c'est sûr, mais... Peut-être arrivera-t-on à la sauver. Quel choc.
Ah, mon pauvre ami.
Monsieur Darzac, vous êtes pressé et moi j'ai une chose de la plus haute importance à vous dire.
Pardonnez-moi, mais nous ne nous connaissons pas. Et je... Hein? Qui est-ce?
J'allais vous présenter.
Vous n'avez plus besoin de moi, monsieur Darzac?
Non, non. Merci encore, monsieur Larson.
Avez-vous une clé de la grille ou voulez-vous que je vous laisse la mienne?
J'ai ce qu'il faut, merci. Je fermerai en partant.
À tout à l'heure. Messieurs, à vous revoir.
Bien, Sinclair, je vous en prie, faites vite. Je dois prendre un train.
Eh bien, voilà, je me suis permis de venir jusqu'ici avec mon ami Joseph Rouletabille, car c'est le meilleur journaliste que je connais.
Comment un journaliste?
Mais oui.
Vous venez au Glandier accompagné d'un journaliste? Ah, vraiment, Sinclair, vous m'étonnez. La plus élémentaire des sens.
Mais...
Bon, messieurs, j'ai 20 minutes pour attraper mon train à Épinay. Veuillez m'excuser. Stop!
C'est impossible, monsieur Darzac. C'est impossible. Sage, mon garçon. Là, sage.
Lâchez immédiatement la bride de mon cheval, monsieur. Sage. Cochez à la gare.
Mais, monsieur, c'est le jeune homme qui tient le mort, là.
Donnez-moi 3 secondes. Donnez-moi 3 secondes, ensuite vous partirez.
Mais c'est insupportable. Enfin, monsieur, que voulez-vous?
Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat.
Comment? Qu'avez-vous dit? Non, attendez. Allons, voyons, ce n'est pas possible. Enfin, voyons, monsieur. Oh, non, 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 ce n'est pas vrai.
Je pense que nous devrions rentrer au château, monsieur Darzac. Voulez-vous?
Oui. Oui, oui, c'est ça. C'est cela, rentrons au château. Nous serons mieux pour parler.
Venez, Sinclair. Oui.
Enfin, Joseph, expliquez-moi, j'ai l'air complètement idiot. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là? Le presbytère a perdu une...
Ah, cette phrase.
Darzac, mon cher, voulez-vous mon bras? Vous avez l'air tellement fatigué.
Non, non, merci, Sinclair, merci, non.
Enfin, si je peux faire quelque chose pour vous, comment puis-je vous aider? Enfin, disposez de moi. Et puis, qu'est-ce qui va arriver avec cette... Et puis, cette phrase aussi, le presbytère...
Ah, taisez-vous. Ne dites plus rien. Bien, je vous précède.
Joseph, je suis de bonne composition, je suis d'un caractère égal. Bon, vous avez voulu que je vienne au Glandier, j'y suis. Vous vouliez parler à Robert Darzac, je vous ai présenté.
Eh ben, c'est parfait, merci mon bon Sinclair.
Bah oui, seulement si vous devez me fâcher avec tous mes clients.
Oh, voilà une idée, allons.
Bah vous en avez de bonnes, vous. Allons. Regardez-le, mon ami. Regardez Darzac. Je sais pas ce que vous lui avez fait, mais enfin, on dirait un zombie. Il marche comme un automate, il a l'air d'un fou, égaré.
Oh, fou, c'est exagéré, Sinclair.
Mais pas du tout. Enfin, voilà un homme qui partait prendre son train. Bon, d'accord, il était pressé, mais enfin, en dehors de ça, il n'avait rien de surnaturel. Bon, nous l'abordons. Vous lui dites je ne sais trop quoi, ou les questions d'un curé qui a gardé son jardin plein de charme. Enfin bref, une histoire vraiment sans queue ni tête, et voilà le travail. Voilà, le résultat, l'homme est livide, il marche en titubant, il a oublié son train, son travail, ses démarches, et il nous ramène au château.
Sinclair, tout ça est exact.
Ah oui?
Manifestement décousu, mais parfaitement exact.
Et alors, vous pourriez au moins m'expliquer tout ce que cela veut dire? Mais j'ai horreur de passer pour un imbécile, moi.
Si vous faites preuve d'un minimum de patience, vous le saurez, je m'y engage.
Oui, mais enfin, il faut...
Tenez, le donjon. Ah, on le voit bien d'ici.
Ah oui? Mais pourquoi les deux gendarmes à la porte?
Ah oui, c'est bizarre. Monsieur Darzac, pourquoi ces deux gendarmes à la porte?
C'est là que les gardiens sont enfermés.
Ah, les concierges, c'est vrai. Auriez-vous l'amabilité de me rappeler leur nom?
Bernier.
C'est ça, Bernier.
Oui, ça peut bien vous faire de connaître le nom des gardiens.
Ah, ça, mon bon maître.
Non, alors là, cessez de m'appeler mon bon maître. Décidément, j'ai horreur de cet endroit. Non, mais franchement, regardez-moi ce château. Le jour où on a distribué le mauvais goût, l'architecte a bénéficié d'une ration supplémentaire. Dieu, que tout cela est laid. Oh là là. Louis XIV est viol et le duc, je vais vous dire, ce n'est plus un mariage, c'est une mésalliance. C'est un peu comme si j'épousais ma bonne.
Oh, Saint-Clair, un, Clara est charmante. Deux, il s'agit d'une enquête criminelle et pas d'une visite de musée. Hein? Mmh, il y a eu crime, tentative de crime. Et nous arrivons sur les lieux. Je suis à vous, monsieur Darzac.
Bien.
Entrons.
Merci.
Nous vous suivons.
Par ici. Saint-Clair, refermez la porte, soyez gentil.
Bon, maintenant parlez, je vous prie. Que me voulez-vous?
Vous serrez la main.
Oh, vous perdez la tête, jeune homme.
Joseph.
Je ne pensais pas qu'une chose aussi naturelle puisse vous mettre dans une telle fureur. J'ai dit simplement, monsieur, que je souhaitais vous serrer la main.
Je vous prie de m'excuser, monsieur. Vous êtes l'ami de Maître Saint-Clair.
Non, dans ça, je suis désolé.
Et j'ai de la gratitude envers Maître Saint-Clair.
Oh, bah, je vous en prie, ne parlons pas de ça.
Je ne vois donc pas pourquoi, monsieur Rouletabille, je vous refuserai ma main. Bien. Mon premier mouvement était un mouvement de nervosité.
Je regrette, monsieur Darzac. J'ai vécu quelques années en Russie. J'ai gardé l'habitude de ne jamais serrer la main à quelqu'un de ganté. Fut-il un ami?
Ah, monsieur, vous m'outragez.
Mais Joseph, c'est fini, ces pitreries, oui.
Saint-Clair, ce que votre ami veut dire, c'est que l'assassin de Mathilde Stangerson a laissé une trace de main ensanglantée sur le mur de la chambre jaune.
Rouletabille, c'est pas vrai, je rêve. Vous n'allez tout de même pas supposer que Robert Darzac...
C'est bien cela, n'est-ce pas, monsieur Rouletabille?
Mais enfin, c'est fou, c'est stupide, c'est impossible. Oh, je vous assure que jamais Rouletabille n'a pensé une seconde. Enfin, Joseph, dites-lui.
Ben, vous voyez bien. Qu'à cela ne tienne, monsieur, voici mes mains. Sans gants. Êtes-vous satisfait?
Pas vraiment.
Comment?
Voilà. Pas de cicatrice. Cela vous suffit-il?
Non.
Oh, Joseph!
Voulez-vous nous laisser Saint-Clair?
Mais il faut...
S'il vous plaît, quelques instants.
Bon, bon, ben c'est parfait, d'accord. Mais permettez-moi de vous dire que je suis... Que
hein?
Vous outrepassez les bornes de la bienséance.
Voilà. À tout à l'heure, Saint-Clair, ne nous faites pas perdre de temps.
Je soupçonnais Darzac. Mais Rouletabille est complètement fou. Le presbytère n'a rien perdu. Le presbytère, je me fous du presbytère. Ce qu'il a perdu ou ce qu'il n'a pas perdu, c'est le cadet de mes soucis. Comment me fâcher avec Darzac, c'est idiot. Ça, c'est idiot. Et surtout à cause de Joseph. Ah, non. Non, ça, je suis pas content. Pas content du tout.
Saint-Clair.
Ben oui, je vous écoute.
Fâché.
Moi, fâché? Ah, pas une seconde. Ah. Si, je suis furieux.
Ah, c'est bien ce que je me disais. Mais monsieur Robert Darzac avait l'impression que quelque chose vous avait contrarié.
Quelque chose? Ben, vous en avez de bonnes.
Vous voyez, monsieur Darzac, ce que je vous disais. Je connais bien Saint-Clair, c'est pas un homme à être contrarié pour un oui ou pour un non.
Enfin, voyons, Joseph.
Venez, mon ami. Monsieur Darzac va nous conduire à la chambre jaune. Et vous ne me quittez plus, c'est promis, hein?
Qu'est-ce que je...
Parfaitement. Voilà. Là, nous vous suivons, monsieur Darzac.
Eh bien, par ici.
Je vous garde toute la journée, Saint-Clair. Nous déjeunons ensemble dans le pays.
S'il vous plaît, faites-moi la joie de prendre un repas en ma compagnie.
Ah, c'est infiniment courtois de votre part, mais...
Mais
nous étions déjà convenus de déjeuner à l'auberge du donjon, figurez-vous.
Au donjon?
Au donjon.
C'est ridicule.
Le donjon?
Mais oui, vous allez manger n'importe quoi. Vous n'y trouverez rien. C'est très mauvais.
Le donjon?
Non, oui. Croyez-moi, une réputation comme la leur, ça ne se fait pas en une semaine.
Vous êtes sûr? Moi, je suis à peu près certain d'y trouver quelque chose, figurez-vous. Mais disons que nous reviendrons ici après le déjeuner pour travailler, hein, et je ferai mon article.
Il paraîtra demain à l'époque.
En effet, vous me rendrez bien le service de le porter au marbre.
Ah bah oui. Et vous?
Comment moi? Ben moi, je reste ici.
Ah, monsieur, vous ne rentrez pas avec moi à Paris?
Ah, non, pas du tout, je couche au Glandier.
Ah, oui, vous couchez au Glandier? C'est sérieux?
Mais oui, monsieur Darzac a bien voulu m'offrir l'hospitalité.
Quoi?
En son nom et en celui de monsieur Stangerson, n'est-ce pas, monsieur Darzac?
Mais c'est parfaitement exact, oui.
Ah, ben, dans ce cas, alors, je n'ai plus rien à dire.
Écoutez. Monsieur Darzac, ce bruit, ce sont les concierges, n'est-ce pas?
Oui.
Savez-vous pourquoi on les a arrêtés?
C'est sans doute ma faute. Vous voyez d'ici leur pavillon?
Oui, parfaitement.
Bon, ben, sans réfléchir, donnez-moi la distance de la maison des gardiens au pavillon.
Ah, ça se mesure, mais je dirais 200 mètres.
En effet. Et j'ai dit au juge hier que je trouvais curieux que les concierges aient pu entendre les coups de feu, se vêtir, courir de l'horloge au pavillon, et ce, en 2 minutes. Car il ne s'est pas écoulé plus de 2 minutes entre les coups de feu et le moment où le père Jacques les a rencontrés.
Oui, évidemment, c'est pas très clair.
Non.
Vous dites qu'ils étaient habillés.
Ouais, mais c'est ça qui est incompréhensible. Entièrement, solidement et chaudement habillés. Elle en sabots, lui, avec de grosses chaussures lacées.
Mais dites-moi, peut-être n'étaient-ils pas encore couchés?
Ils ont déclaré s'être couchés à 9h, comme tous les soirs.
Et ils n'ont donné aucune explication.
Mais, et par ailleurs, monsieur de Marquet a fait tirer tout à l'heure 2 balles de revolver dans la chambre jaune.
Mm-hmm.
Portes et fenêtres fermées. Nous étions avec lui dans le pavillon des Berniers.
Mais vous n'avez rien entendu?
Rien, pas le plus petit bruit. Donc ces gens-là ont menti. Il devait être près du laboratoire, habillé, prêt. Mais prêt à quoi? C'est ce que je ne sais pas.
Des complices? Non, 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 certainement pas. Je pense que s'ils avaient été complices, ils seraient au contraire arrivés débraillés, essoufflés, ou ils ne seraient pas venus du tout.
Ben oui, mais pourtant...
Quand on se jette dans les bras de la justice, avec surtout toutes les apparences contre soi, c'est qu'on n'est pas complice. C'est bien votre avis, mon cher maître.
Ben, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la plupart des cas... On est bien obligé de constater.
Ah, vous voyez, d'ailleurs, je l'avais dit, je n'arrive pas à croire aux complices dans cette affaire.
Alors, pourquoi était-il dehors à minuit?
Ah.
Qu'ils le disent.
Cher monsieur, que les Berniers aient un intérêt à se taire, c'est sûr. Je voudrais même bien savoir lequel. Ah, tout est tellement important en ce qui concerne cette nuit-là. Nous voici donc devant le laboratoire.
Et franchement, l'endroit est sinistre. Tous ces vieux chênes noirs, ces feuilles mortes.
Oui. Ah. Mathilde aimait beaucoup cet endroit, l'été. Cette année, elle s'y est attardée.
Plus que les autres années?
Je ne m'en rends pas compte. Elle et son père avaient un travail à finir.
Oui, elle préférait être sur place, c'est bien normal d'ailleurs. D'ailleurs, dites dans l'autre côté du pavillon... Peut-être plus agréable ici, nous sommes, si je me trompe, au nord.
Oui, oui, c'est exact. Mais l'autre face est ensoleillée et donne sur la campagne extérieure. Bien. Bon, si vous voulez bien me suivre. Je vais allumer une lampe, hein. Attendez, il fait très sombre.
Voilà. Voulez-vous sortir le plan, Sinclair? C'est le plan qui a été publié par le matin. Nous allons vérifier ensemble si vous le voulez bien.
Je vous en prie. Voilà la lampe qui fonctionne bien.
Bon, alors, le vestibule.
Oui, c'est ça.
La porte d'entrée ouvrant au nord par 3 marches.
Oui, c'est clair.
À gauche, une fenêtre grillagée. Il y a des grillages.
Non.
Voulez-vous m'éclairer par ici, face à la porte d'entrée? Alors, on a un escalier et une porte. L'escalier conduit au grenier, c'est bien ça?
Oui.
Et la porte?
Toilette.
Voyons un peu. Toilette WC. Bien.
Alors là-bas, la porte du laboratoire, sans doute.
Oui, c'est bien ça.
Alors, ici, laboratoire, deux portes et deux fenêtres.
C'est ça, deux fenêtres, une au sud, une à l'ouest, et elles donnent toutes les deux sur le fossé.
Et elles sont également grillagées. Vous avez aussi la grande cheminée, là. Hein. C'est celle qu'utilise le professeur pour certaines expériences.
Oui, oui, c'est ça.
Bon. Les portes, on ne revient pas sur ce que nous avons dit. Pas de porte extérieure, d'accord.
On ne peut accéder au laboratoire que par la porte du vestibule.
Donc, ici, cette porte-là...
C'est celle de la chambre jaune, oui. On n'y accède que par le laboratoire.
Nous voici dans la chambre jaune.
Alors, une seule fenêtre, une seule porte. La fenêtre est grillagée et donne au sud sur le fossé.
La porte, elle, ouvre sur le laboratoire. Aucune autre issue.
Voilà, vous avez tout vu.
C'est exact, nous avons tout vu, mais nous n'avons peut-être pas encore tout regardé.
Oh, le moment est peut-être mal choisi pour faire de l'esprit, Joseph, quand
mais
même.
Mais je ne faisais pas d'esprit, Sinclair. J'ai bien l'intention de regarder, et dans le détail. Je veux que rien ne m'échappe.
Mais tout a déjà été examiné.
Justement, ça devient beaucoup plus intéressant. Monsieur Darzac.
Oui.
Puis-je vous poser une question, une seule?
Je vous en prie.
Quel est, à votre avis, le mobile du crime?
Pour moi, monsieur, il ne saurait y avoir, hélas, aucun doute.
C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rêve. Aujourd'hui, troisième épisode, avec Rouletabille, Philippe Nico, Sinclair, Philippe de Rêve, Darzac, Michel Rull, Larsan, François Mestre, Le Cocher, Gaëtan Jarre. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrian, Daniel Coccol, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rêve. Avec Philippe Nico dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne.
Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat.
Monsieur Darzac, puis-je vous demander quel est votre avis sur cette affaire?
Hélas, pour moi, le crime ne fait aucun doute.
Ah, le crime, expliquez-vous.
Les traces de doigts, hein, les écorchures profondes sur le cou et la poitrine de Mathilde. C'est un affreux attentat.
Un crime crapuleux.
Oh, j'en ai bien peur, maître. Les experts médicaux affirment que les traces laissées sur Mathilde ont été faites par une seule et même main. Cette main dont l'empreinte ensanglantée reste là, sur le mur. Mmh. Une main énorme, monsieur Rouletabille. Vous voyez, qui ne tiendrait certainement pas dans mon gant.
Donc, pour vous, cette empreinte sanglante ne peut être en aucune façon l'empreinte de la main de Mathilde. Pourtant, en s'effondrant, elle aurait pu essayer de se retenir au mur et laisser traîner sa main.
Oui, je reconnais la valeur de l'argument, maître, mais quand nous avons relevé Mathilde, il n'y avait pas une goutte de sang sur ses mains.
Hmm. En ce cas, c'est elle qui a tiré avec le revolver du père Jacques ?
C'est plus que probable, oui.
Et vous n'avez aucun soupçon ?
Non, non.
Il faut vous dire, mon bon maître, que M. de Marquet nous a fait des cachotteries.
Ah bon ? Qu'est-ce que vous voulez dire ?
En fait, l'instruction de l'affaire est bien plus avancée qu'il nous l'a fait croire. Eh oui.
Nous vous écoutons.
Nous savons de façon certaine au moins deux choses de plus depuis que nous sommes ici. D'abord, nous avons la certitude que Mlle Stangerson s'est bien servie du revolver du père Jacques pour se défendre.
Oui, mais ça, vous l'aviez déjà déduit, mon cher Rouletabille.
C'est vrai, mais ce que nous n'avions pas trouvé, car le secret était bien gardé, c'est la nature de l'arme qui a servi à frapper Mlle Stangerson.
Un marteau.
Un os de mouton.
Quoi ?
Un os de mouton. L'os de mouton est l'arme habituelle de la pègre.
Monsieur Rouletabille a raison. Un os de mouton énorme qu'on a retrouvé au pied du lit, encore rouge de sang. Le sang de Mathilde.
Oh, c'est abominable, quelle horreur. Et puis pourquoi tout ce mystère autour d'un os de mouton, après tout, cette arme-là ou une autre
Allez donc savoir ce qui peut se passer dans une cervelle de juge d'instruction.
En tout cas, ceux qui opèrent avec ce genre d'armes sont quand même de moins en moins nombreux à notre époque, heureusement. Mais peut-être le subtil monsieur de Marquet pense-t-il, en s'entourant de mystère et de silence, pouvoir faire une enquête discrète dans le milieu.
Mmh. Et qu'a-t-on fait de l'arme ?
Eh bien, monsieur de Marquet a fait porter l'os au laboratoire municipal de Paris. D'après une de ses réflexions, il croit qu'il s'agit d'un vieil os qui a déjà dû servir à quelques crimes.
On devrait avoir beaucoup plus de moutons dans la police.
Oh, Joseph, un os de mouton.
Excusez-moi, mais c'est une arme terrible, mon cher, et qui ne doit rien qu'à la nature. Bien en main, enfin je veux dire dans la main d'un assassin exercé, c'est une arme terrible, plus sûre et plus efficace qu'un marteau.
Il a raison. L'os a violemment frappé le front de Mathilde. La blessure a la forme exacte de l'articulation de l'os.
Mais c'est un miracle que Mlle Stangerson...
soit encore en vie, sûrement.
Oui.
Pour moi, elle a dû tirer et blesser l'assassin à la main pendant qu'il s'apprêtait à la frapper. La douleur lui a fait lâcher l'os et il s'est enfui.
L'arme est donc arrivée sur Mlle Stangerson avec une force suffisante pour l'assommer, mais, Dieu merci, insuffisante pour la tuer. Oui,
oui mais je croyais qu'il y avait eu deux coups de revolver.
Mais deux coups, en effet. Tout donne à penser que c'est avec la seconde balle que Mathilde a blessé son agresseur. Si elle avait pu l'atteindre avec la première, elle aurait sans doute échappé à l'os de mouton.
Ouais.
Et elle a sans doute saisi le revolver avec un temps de retard. Le premier coup a dévié dans la lutte, et la balle s'est logée dans le plafond, vous voyez, ici.
Ah oui.
Pauvre femme.
Et alors elle a tiré le second coup.
Le misérable avait déjà tenté de l'étrangler, elle devait être à bout de force.
Eh ben, voilà autre chose. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous voulez faire ici ?
Eh ben, père Jacques...
Ah, c'est donc vous, monsieur Darzac. Ah ben, j'aime mieux ça. J'ai vu la porte ouverte, n'est-ce pas ? Alors, dame, je me demandais forcément...
Ce sont des amis, père Jacques. Et je sais aussi que la consigne est formelle.
Ben, c'est que si on se met à entrer et sortir de cet endroit comme d'un moulin... Le de Marquet, puis toute la police, ils auraient vite fait de nous taper sur les doigts.
Mais vous avez tout à fait raison, père Jacques.
Mais pour vous, c'est pas pareil, monsieur Darzac. Faut pas confondre. Il y a consigne et consigne. Remarquez, je me demande bien pourquoi je dois empêcher tout le monde d'entrer. Ils ont vu tout ce qu'il y avait à voir, ces messieurs de la justice. En long, en large, en travers. Ils ont fait des dessins, des croix, ils ont pris des mesures. Ouh, pour ça, ils sont pas feignants. Mais alors, dire comment l'assassin est reparti, ça, ils savent pas. En dehors de ça, vous pouvez leur poser n'importe quelle question.
Et moi, est-ce que je peux vous en poser une ?
Vous êtes aussi de la police. Vous êtes bien jeune.
Monsieur Rouletabille est venu nous aider, père Jacques. C'est un grand criminologue. Vous pouvez lui répondre sans craindre quoi que ce soit.
Ah, ben alors, si c'est un grand, comme vous dites, eh bien, allez-y, jeune homme, si je peux répondre.
Écoutez-moi, le soir de la tentative de meurtre, votre maîtresse portait-elle ses cheveux en bandeau? Vous voyez ce que je veux dire? Les cheveux en bandeau sur le front?
Alors là, je suis formel, mon jeune monsieur. Mademoiselle avait ses beaux cheveux relevés, comme tous les jours.
Ah, vous êtes sûr?
Ah ben, d'autant plus qu'elle les a jamais portés autrement. Toujours relevés sur le front. Oh, monsieur, un front beau comme celui d'un enfant, rond, bien lisse. Une vraie merveille. Et elle aurait caché ça derrière des bandeaux, allons donc. Ça aurait pas été censé.
Bien, je vous remercie. N'en parlons plus. Ah, dites-moi, cette porte-là, elle ne reste pas ouverte toute seule?
Non, elle se referme avec un système automatique.
Oui, il faut une clé pour l'ouvrir. À l'autre soir, bien sûr, il a fallu la défoncer.
Bon, alors, jetez un coup d'œil au vestibule. Alors, voyons un peu. Voilà la fenêtre par laquelle l'assassin s'est enfui.
Ouais, enfin, ça, qui disent, hein, qui disent. Allez-y voir, vous.
Mais, Père Jacques, c'est pourtant ce qui ressort de l'enquête.
Non, je suis désolé de vous couper la parole. Mais si ce foutu bandit s'était sauvé par ici, le professeur Sanderson et moi, on l'aurait bien vu. À quoi, on est quand même pas aveugles. Et les derniers, c'est tout pareil. Ils sont en prison, maintenant. Je vous demande un peu. À ce moment-là, pourquoi donc que j'y suis pas, moi, hein? À cause du revolver.
Dites-moi, les volets, là, ils étaient fermés à l'heure du crime?
Ils étaient fermés au loquet de fer, en dedans. Et moi, je suis bien certain que l'assassin n'est pas passé au travers. Enfin, quoi, c'est pas sérieux.
Ah, mais pourtant, il y a des taches de sang.
Hein? Ah, ça oui, pour des taches de sang, il y a des taches de sang. Tiens, tenez, penchez-vous. Tiens, regardez sur la pierre, dehors.
Ah, donc c'est une preuve.
Une preuve de quoi?
Ben, expliquez-vous.
Il faudrait d'abord savoir et être certain que c'est bien du sang d'homme, hein?
Et si c'est pas du sang d'homme, qu'est-ce que c'est à votre avis?
Ah ben, est-ce que c'est moi? Oh, ça m'étonnerait bien que vous trouviez quelque chose en vous mettant un casse-pâte par terre.
Vous avez une idée, monsieur Rouletabille?
Non, aucune. Je ne fais que regarder. Je regarde et après je pense. C'est l'avantage de ma modeste méthode sur celle de ce cher juge d'instruction, l'ineffable de Marquette.
Enfin, je peux quand même vous dire que vous trouverez rien. Passez d'horizon, regardez, ils n'ont rien trouvé. Et croyez-moi, ils ont tout examiné à plusieurs.
Laissez, Père Jacques, laissez faire, monsieur Rouletabille.
Enfin, voyons, monsieur Darzac, qu'est-ce que vous voulez aller trouver sur des carreaux noirs et blancs? Autant qu'on m'a interdit de les laver. Regardez-moi ça, si c'est sale, tiens, c'est décourageant.
Père Jacques, on peut passer 10 fois devant un indice qui vous crève les yeux et pourtant on ne le voit pas.
Enfin, en tout cas, jeune homme, dites-vous bien que le jour du crime, j'avais lavé un grand dos, moi, Père Jacques. Et si l'assassin était passé par là, on l'aurait bien vu. À preuve, il a laissé la marque de ses godasses dans la chambre de mademoiselle.
Père Jacques, je vais vous poser une question, il ne faut pas vous tromper. Dites-moi, quand vous avez lavé ces dalles pour la dernière fois?
Eh ben, je viens de vous le dire. Dites-moi, il n'est pas un peu sourd, votre ami?
Ah non, pas le moins du monde.
C'était dans la journée du crime.
Oui, je sais, vous l'avez dit. Et j'ai très bien entendu, je vous demande l'heure précise.
Ah, l'heure précise. Moi, je dirais sur le coup de 5h, 5h30. Ah. Mademoiselle Mathilde et le professeur ont dîné ce soir-là dans le laboratoire. Ils étaient allés faire un petit tour de promenade avant le dîner. Et j'en ai profité pour laver les carreaux.
Et qui a observé les traces de pas après le crime?
Le juge de Marquet, le lendemain matin. Le laboratoire et le vestibule étaient propre comme un sous-tout neuf. Et pour ce qui est des traces par terre, c'est comme qui dirait de l'encre sur du papier blanc. Croyez-moi, s'il était passé par là, ce voyou, ce serait vu comme un nez au milieu de la figure.
Toutefois, Père Jacques, vous ne pouvez nier qu'il y a des traces de pas dehors, sous la fenêtre et dans le chemin.
Oui, ben j'en conviens.
Ben vous niez l'évidence, alors.
Mais non, je nie rien du tout. L'assassin était dans la chambre jaune, c'est bien ça? Oui. Et ben alors il a fait un trou dans le toit.
Oh.
Ben il s'est laissé glisser le long des tuiles jusqu'à la fenêtre du vestibule en se laissant tomber. Et si ça vous arrange, moi je vois bien. Seulement, il n'y a pas de trou dans le plafond de la chambre jaune, et ni dans mon grenier. Alors il faut trouver autre chose. Alors, monsieur, ne perdez pas votre temps. Je peux résumer la situation. On ne sait rien, on ne comprend rien, et on n'en saura jamais davantage. C'est un mystère du diable.
Le seul point sur lequel vous ayez raison, Père Jacques, c'est qu'il s'agit bien d'un mystère. Seulement, voilà. Il n'y a pas de mystère sans clé.
Oh, alors là, je suis sûr que vous ne trouverez rien dans les toilettes.
Une petite seconde tout de même, messieurs.
Et vous voyez quelque chose ? Joseph !
Soyez gentil. Passez-moi donc une allumette.
Voilà.
Merci.
Eh bien ?
Ah, rien de très important. Une goutte de sang.
Vous avez trouvé une goutte de sang dans les toilettes.
Mais oui. Dites-moi, Père Jacques, quand vous avez lavé ce laboratoire et le vestibule, est-ce que la fenêtre du vestibule était ouverte ?
Je venais de l'ouvrir.
Ah oui ?
Ah, madame, j'avais allumé du charbon de bois pour le professeur.
Oui, sur ce fourneau.
Eh bien, c'est ça, oui. Comme je m'étais servi de vieux journaux, ça fumait, enfin, Dieu, voilà, c'était quelque chose.
Oui, alors si bien que vous avez ouvert les fenêtres du vestibule et de ce laboratoire pour faire un courant d'air.
Eh bien, c'est exactement ça. Et après, j'ai fermé celle du laboratoire et laissé ouverte celle du vestibule. Je suis sorti pour aller chercher une serpillière au château. Je suis revenu. Eh bien, c'est comme j'ai dit. Mais il devait être 5h, 5h30. Et je me suis mis à laver les dalles.
Et vous n'avez pas refermé la fenêtre en partant ?
Non.
Et quand vous êtes revenu ?
Ben, elle était fermée.
Ah. Et le professeur et sa fille ?
Ils étaient déjà en train de travailler.
Ici, dans le laboratoire ?
Oui, ici.
Vous êtes resté tout le temps au pavillon ?
Oui. Le professeur et sa fille ont travaillé jusqu'à minuit. Et je me souviens qu'au moment où minuit sonnait, mademoiselle a souhaité une bonne nuit à son père et elle l'a embrassé.
Est-ce qu'elle vous a parlé ?
Ben, elle m'a dit bonsoir, comme au professeur.
Bon, et ensuite ?
Ben, elle est entrée dans la chambre jaune et on l'a entendue s'enfermer à clé.
Et le professeur Stangerson ?
Il a pas seulement levé le nez de ses expériences. C'est à ce moment-là que j'ai entendu le cri de la bête du bon Dieu. Je me suis demandé si elle allait nous laisser une seule fois dormir tranquille. Oui, faut vous dire que jusqu'à la fin du mois d'octobre, j'habite dans le grenier, au-dessus de la chambre jaune. C'est une idée de mademoiselle de passer la bonne saison dans le pavillon.
Et l'hiver ?
Madame, elle retourne au château, vu que dans la chambre jaune, il n'y a pas de cheminée. On peut pas chauffer.
Oui, allez-y, continuez, Père Jacques.
On a dû rester une bonne demi-heure. Oui, le professeur et moi, lui a travaillé, moi le regarder. On parlait pas, on bougeait pas.
Et bien, si ça se trouve, l'assassin était peut-être persuadé qu'on était parti.
Alors, le coucou a fait... le coucou a fait entendre l'admi. Et puis, on a entendu les cris, mademoiselle.
Oh, c'est affreux.
Alors, je suis bien de votre avis, monsieur Darzac.
Mais quel genre de cri a-t-elle poussé ?
Eh bien, il a crié deux fois. À l'assassin ! Et puis, au secours ! Et puis là, il y a eu, les coups de revolver, le bruit de la table et les meubles renversés, un bruit de lutte, quoi.
Mais longue, la lutte ?
Ah, ben ça, je saurais vous dire. En tout cas, mademoiselle a crié une nouvelle fois. À l'assassin ! Au secours ! Papa ! Papa !
Et alors, qu'est-ce que vous avez fait ?
Vous pensez si on a sauté sur la porte ? À tour de rôle, on s'est jeté dessus, mais elle était fermée de l'intérieur, à clé et au verrou. Puis elle était sacrément solide, où la foutre tu portes. Le professeur était comme fou. On entendait mademoiselle qui râlait. Au secours, au secours.
Et vous êtes resté longtemps devant la porte ?
Non. Parce que je me suis dit que l'assassin s'était introduit par la fenêtre. Et je suis sorti tout courant. Et le malheur, c'est que la fenêtre de la chambre jaune, elle donne sur la campagne. Et qu'il me fallait faire le tour en traversant le parc.
Et alors ?
J'avais déjà fait une bonne moitié du chemin quand j'ai croisé le Bernier. Oui, le Bernier et sa femme, les concierges, quoi. Sensément, ils avaient entendu les cris et les coups de feu. J'ai dit à Bernier d'aller rejoindre le professeur, et puis j'ai demandé à sa femme de m'accompagner pour ouvrir la grille.
Père Jacques, je vais vous poser une question. C'est très important, bien attention. Vous avez mis combien de temps pour faire le tour ?
Pas plus de 5 minutes. Et on s'y est retrouvé devant la fenêtre de la chambre jaune. Et il y avait un sacré quart de lune. J'ai bien vu tout de suite qu'on n'avait pas touché à la fenêtre.
Les barreaux étaient intacts et les volets fermés. Par le loquet, de l'intérieur. Enfin, vous... Non, mais vous comprenez ça, vous?
Mais d'emblée, non, mais enfin... Oui, alors ensuite?
Bah, quoi ensuite? Faut pas être bien sorcier pour comprendre que l'assassin n'avait pas pu partir par là. Et comme la porte était fermée à clé, eh ben, on entendait toujours mademoiselle qui appelait « Au secours !»
Et vous êtes sûr de ça?
Hein?
Elle appelait toujours?
Ah, non. Non, vous avez raison. Elle criait plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pensé qu'elle était peut-être morte. Ouais, par contre, j'entendais les coups dans la porte. On est revenu au pavillon, la concierge et moi.
Oui?
Oui, ben... Ben, Bernier, le professeur et moi, on a fini par avoir raison de la porte. Là, 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 c'était pas joli, joli, mon pauvre monsieur. Oh, là, cette pauvre demoiselle, étendue par terre, en chemise de nuit, puis tout le désordre, elle était pleine de sang.
Oh, ma pauvre Mathilde, mon Dieu.
Alors, on voyait les marques terribles au cou, et puis cette blessure à la tempe. Le professeur s'est précipité en poussant un grand cri de désespoir. Bernier et moi, on cherchait l'assassin. Ah, je vous jure, monsieur Darzac, si on avait eu la chance de lui mettre la main dessus à ce misérable qui avait voulu tuer notre demoiselle, il aurait passé un foutu mauvais quart d'heure. Oui, oui, mais personne, mon bon monsieur, personne. Envolé, disparu, l'assassin. Rien sous le lit, rien par derrière les meubles. Ah, à question trace, ça, il a pas lésiné. Une grande main sur le mur. Un mouchoir trempé de sang, un vieux béret sur le plancher. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de cheminée dans la chambre jaune.
Mais je l'ai noté. Finissez votre histoire, père Jacques.
Oh, vous savez, on est resté bête à se regarder sans savoir comment le misérable était parti. Imaginez la concierge sur le pas de la porte avec sa grosse lampe. Et nous, enfin, c'est-à-dire le professeur Bernier et moi, dans la chambre jaune. Avec cette pauvre demoiselle évanouie qui perdait son sang. Puis pas moyen de trouver ce bandit. Oh, je disais rien, mais j'étais dans une rage. Je commençais à croire que c'était un coup du diable.
Eh oui, il y a de quoi.
Et c'est là qu'on a retrouvé mon revolver par terre. Alors, pouvait plus être question du diable. Ce vilain n'aurait pas eu besoin de mon arme pour tuer notre pauvre demoiselle Mathilde.
C'est donc que l'assassin est passé chez vous pour vous le voler?
Oh, madame. Il est monté au grenier et il l'a embarqué. C'est Bernier qui nous a fait remarquer qu'on avait tiré 2 balles.
Oui, 2 balles, c'est vrai.
Eh ben, avouez que j'ai eu une sacrée chance, moi, dans un pareil malheur, d'avoir été aux côtés du professeur. Eh ben, dans le laboratoire, hein, quand c'est arrivé. Avec cette foutue histoire de revolver, je me serais retrouvé à rat de combat au pied de la machine à Weber. Oui, oh, je n'en veux pas au docteur Guillotin, mais... Comme dit la justice... Vaut mieux se débarrasser de 5 personnes, quitte à tuer un innocent, plutôt que de remettre 4 malfaisants en liberté. Ouais, parce qu'on a beau dire, hein, c'est toujours les mêmes qui recommencent.
Si on se croit, père Jacques, que vous n'avez pas raconté tout ça à monsieur de Marquet.
Ben, quoi donc, mon petit monsieur?
Vos considérations un peu lapidaires sur la justice.
Oh, ben non, ben pour sûr que non. Bon. Ça, c'est des choses qu'on doit garder pour soi.
Ben voyons.
Oh, mais pauvre maître. C'est une bien triste histoire. Tiens, j'aurais bien donné mon bras gauche pour que ça n'arrive pas. Quel malheur, ça.
Nous comprenons, père Jacques.
Nous savons à quel point vous aimez les Stangerson. Vous leur êtes tout dévoué, c'est normal. Et cela part d'excellents sentiments.
Oh, ben, je pense bien que c'est normal. C'est comme qui dirait mes bienfaiteurs, mon
frère. En tout cas, merci pour nous avoir aidés à tenter d'éclaircir ce mystère.
Oui. Hein? Merci.
Allez. Monsieur Darzac.
Oui, je vous écoute.
M'autorisez-vous à commencer sérieusement cette enquête?
Ah, je vous en prie.
Sinclair,
oui.
Aidez-moi.
Que dois-je faire?
Nous allons d'abord passer en revue tout ce laboratoire. Je sais que la police, avec ses gros souliers à clous, a dû brouiller sans doute quelques pistes, mais il nous faut garder l'espoir de découvrir un ou plusieurs éléments qui auraient échappé au flair infaillible de monsieur de Marquet.
Bon, eh ben alors, chacun à côté.
J'allais vous en prier.
Puis-je vous être utile?
Pas pour le moment, monsieur Darzac. Il faut des yeux neufs pour découvrir quelque chose de nouveau.
Bon, Joseph, vous voulez un inventaire détaillé du contenu des vitrines?
Ah, non, c'est que j'essaie de mettre le nez sur quelque chose d'inhabituel.
Bon, alors, microscope, éprouvette, fiole. Alors... traité de physique chimie, de chimie. Une table de classification de Mendeleïev.
Vous avez dans cette vitrine tous les résumés des travaux du professeur concernant la dissociation de la matière.
Ouais. Et votre ami, vous trouvez quelque chose?
Tenez, monsieur Darzac, voulez-vous me conserver cela?
Qu'avez-vous découvert?
Ah, sans doute peu de choses. Parmi les papiers qui ont été brûlés dans la cheminée, celui-ci ne s'est pas consumé entièrement. Et je crois apporte un élément troublant qui se rapporte directement à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tenez, lisez, je vous en prie.
Le presbytère bien perdu de charme. Oh, Seigneur. Oh, non, 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 non.
Par où le tabi? Par où le tabi, où êtes-vous passé?
Dans la cheminée.
Ah bon? Quoi? Dans la cheminée?
Oui, exactement.
Bon, voilà une idée.
Ah! Ah, et voilà! Ah, eh bien, je m'assure qu'on ne pouvait pas passer par là. Alors, père Jacques, qu'est-ce que vous regardez par cette fenêtre?
Je regarde l'homme de la police. Ah, celui-là aussi, c'est un drôle. Il arrête pas de faire le tour de l'étang. Hein? Encore un bon malin qui verra pas plus loin que les autres.
Oh, ne croyez pas ça, père Jacques. Si quelqu'un doit trouver l'assassin, ce sera Frédéric Larsan.
Oh, oh, oh. Ah, vous me faites bien rire, tiens. Avant de retrouver votre assassin, faudrait peut-être mieux savoir comment qu'on l'a perdu.
Vous avez tout à fait raison, père Jacques. Mais chaque chose en son temps, hein.
Alors, fini pour le laboratoire, Sinclair?
Ben oui, en ce qui me concerne, j'ai terminé, j'ai rien trouvé.
Bon, eh bien, il nous reste maintenant la chambre jaune.
Alors, nous y retournons?
Oui, nous allons pousser cette porte derrière laquelle il s'est passé tant de choses. Tant de choses que nous ne pouvons pas encore expliquer.
C'était « Le mystère de la chambre jaune » de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rennes. Aujourd'hui, quatrième épisode, avec Rouletabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe de Rennes, Darzac, Michel Rulle, le père Jacques, André Weber. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrian, Daniel Cocolle, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation Jean-Jacques Vierre.
Deux épisodes ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 3 et 4 août 1983. Vous pourrez les réécouter en ligne durant 1000 jours ou les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.